Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Très très content de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode un petit peu particulier. Je serai tout seul aujourd'hui parce que c'est un format qui va être amené à être reproduit. Mais en fait, je vais vous présenter aujourd'hui une histoire que j'ai déjà racontée en vidéo, qui est déjà sortie sur YouTube, donc je mettrai le lien en description du podcast. Voilà, on m'a demandé à plusieurs reprises de transposer certaines histoires que je pouvais raconter en vidéo en podcast. On me demande, je fais, j'exécute, j'écoute la communauté, j'espère que ça vous fera plaisir. On va commencer direct, je vais pas faire trop de blabla. Vous connaissez, le lien de la chaîne YouTube est en description. Si vous voulez aller vous abonner et découvrir cette histoire en vidéo, vous pouvez, faites-vous plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme d'origine indienne qui a tout simplement cassé les frontières et qui est devenu au milieu des années 30, peut-être pas une légende, mais qui a été en tout cas un des premiers joueurs d'origine asiatique à porter le maillot d'un club européen dans l'histoire du foot. Le tout est saupoudré d'une belle histoire avec des gens gentils tout plein dedans, et cet homme, c'est Mohamed Salim. Il est né en 1904, même s'il n'y a pas de date précise officiellement, a priori, certaines sources annoncent le 1er janvier, mais on a un petit peu l'impression que ça ressemble à une date de complaisance, un petit peu random, histoire de dire « on a mis une date, mais bon, peut-être que je peux me tromper ». Il est né à Methiaburu, un quartier de la classe moyenne inférieure de Calcutta, et il a grandi, du coup, dans une famille de la classe moyenne inférieure de l'Inde britannique des années 1900. Depuis tout petit, il est fasciné par le foot, mais évidemment, il est poussé par ses parents à faire des études. Il attaque donc des études en chimie et en pharmacie, mais ça le passionne pas des masses. Lui, il aime le sport et le football en particulier, et ce qu'il veut avant tout, c'est taper dans le ballon avec ses copains. Dans une période où en plus de ça, il y a une très grande partie des nationalistes indiens qui luttent contre la domination britannique en se servant du football pour montrer qu'ils n'étaient pas inférieurs à ces Anglais qui sont venus un petit peu gouverner à leur place, et qui tape les Anglais en plus en étant à pieds nus, je le précise maintenant parce que ça peut avoir son importance pour la suite de l'histoire. Et Mohamed, lui, il était plutôt du même avis, il était persuadé qu'il avait le niveau pour réussir dans le foot, et il va le prouver. À 22 ans, il joue dans son premier club, le Chittaranjan FC. Encore une fois, le parcours est pas des plus clairs parce que, je le rappelle, on est au début des années 1900, c'est pas toujours évident de trouver des infos, mais j'ai essayé de faire au mieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que lui, lors de son deuxième passage au Mohamedan FC, qui est un club un petit peu de l'identité musulmane indienne à l'époque, en pleine période de rébellion, comme je le disais, et c'est là qu'il va se faire remarquer. Il va aider l'équipe à remporter pas mal de titres en Calcutta Super League, qui est une sorte de ligue de quartier en quelque sorte, qui existe encore aujourd'hui et qui équivaut, si j'ai bien compris, évidemment, à une quatrième division avant d'accéder à une compétition régionale et nationale par la suite. Et les bonnes performances de Mohamed, elles vont vite le faire remarquer par la sélection nationale en 1936. Il va être invité à jouer deux matchs amicaux contre des équipes chinoises, et Mohamed, il va se donner à fond pour l'occasion. Il va faire un très gros match, et c'est juste incroyable pour lui. Parce que déjà il réalise un rêve de gosse, et il joue bien, et il devient même une sorte d'attraction que les gens ont envie de venir voir jouer son deuxième match au stade. Une deuxième rencontre justement que Mohamed ne jouera pas. C'est un petit peu le tournant de l'histoire, parce qu'en fait juste avant ce second match, on n'a plus aucune trace de lui. Le joueur star de l'équipe qui disparaît, ça la fout mal, tellement mal qu'il y a même la police qui a mis sur le coup pour le retrouver, et il y a des annonces absolument partout dans les journaux pour tenter de le localiser, mais il reste introuvable. Et s'il est introuvable, c'est à cause, ou grâce, ça dépend du point de vue qu'on a envie d'avoir, c'est grâce à un nouveau perso qui s'appelle Hashim. Mais c'est qui ce Hashim? Hashim, tout simplement, c'est son cousin. C'est un cousin qui habite en Angleterre, qui était venu rendre visite à Mohamed et qui a tout simplement adoré ce qu'il a vu sur le terrain et qui a passé la soirée et la nuit à convaincre Mohamed de tenter sa chance en Angleterre. Du coup, pendant que tout le monde court un petit peu les bras en l'air en panique pour retrouver Mohamed, eux, ils sont déjà dans un bateau direction Le Caire en Égypte avant de prendre la route pour le vieux continent et Londres avant de rejoindre Glasgow. À leur arrivée, les cousins, ils en profitent un petit peu, ils visitent Londres pendant que tout le monde est encore en train de les chercher à 8000 km, je le rappelle, je remets un petit peu de contexte quand même. Et après leur balade, ils se rendent à Glasgow avec un objectif très clair, tenter de convaincre une personne en particulier, et cette personne, c'est Willie Mallet, le coach du Celtic à l'époque, qu'ils vont tenter de convaincre de prendre Mohamed à l'essai. Évidemment, Willie Mallet, lui, ça le fait un peu sourire, parce que devant lui, il a quand même deux bonhommes qu'il connaît pas, et qui essayent de le convaincre qu'un mec qui vient de taper 8000 km pieds nus peut intégrer son équipe de foot et surtout être au niveau. Malgré tout, ils vont l'avoir à l'usure. Hashim, il a un certain pouvoir de persuasion, je pense que vous l'avez compris, et Willie Mallet va accepter de tester Mohamed pendant un match amical face à Hamilton, devant 3 entraîneurs et un bon millier de spectateurs. Pas de pression pour Mohamed, qui a déjà joué devant beaucoup plus de spectateurs en Inde. Et lui, il va tout simplement se contenter de faire ce qu'il sait faire, et il va rendre tout le monde complètement abasourdi, déjà parce que c'est le premier Indien à jouer en Écosse et même en Europe, et aussi parce qu'il est pieds nus, avec de simples bandages en guise de chaussures. Il n'y avait pas de mercurial vapor machin chouette à l'époque, pour Mohamed, et il va hypnotiser la foule en faisant rouler le ballon sur ses orteils scintillants. Je sais, cette phrase peut prêter à sourire, mais c'est tout simplement le titre du journal du lendemain. Les Britanniques, le sens de la formule et leur sensationnalisme, vous connaissez, qui vont le surnommer de manière originale. En plus de ça, forcément, un Indien qui jongle comme ça avec le ballon, et bien il va devenir le jongleur indien. Un gros travail de recherche, on peut le souligner. Et c'est la même chose pour le second match face à Galston. Et forcément, tout le monde est convaincu parce que Mohamed, au-delà d'être une simple attraction de par le fait de jouer pieds nus et de venir de loin, il a montré qu'il avait le ballon et qu'il avait rien à envier aux joueurs britanniques. Tout semble merveilleux pour Mohamed, mais forcément, il y a un mais. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il est très loin de chez lui et du coup de sa famille qui lui manque quand même. Il décide donc de partir et sa décision, elle est ferme, il n'y a pas de négociation possible. Le club, lui, veut le garder et il propose même d'organiser un match caritatif qui porterait son nom. Et pour le retenir, il lui offrait même 5% des recettes, environ 1800 livres à l'époque, soit un équivalent d'un peu plus de 100 000 euros actuels pour qu'on se rende bien compte de la somme qui lui était proposée. Mohamed, lui, en fait, il en a un peu rien à faire de l'argent. Ce qu'il veut, c'est rentrer à la maison, retrouver sa famille, et il refuse l'argent. Il va même demander à ce que cette somme, elle soit reversée à un orphelinat. Avant de rentrer en Inde, il a aussi eu une offre en Allemagne pour jouer dans un club qu'il a décliné parce qu'il était vraiment très motivé à rentrer. A partir de là, on n'a plus trop de nouvelles de lui, mis à part qu'il va jouer de nouveau Mohamed Anessé au pays, et plus rien jusqu'à la fin des années 70. Parce que l'histoire s'arrête pas là, et la fin des années 70, c'est une période à laquelle Rachid Ahmed, le fils de Mohamed, contacte le club du Celtic pour les informer de la maladie de son papa et du coût du traitement. Dans une interview donnée en 2002, il expliquait que le but n'était pas de réclamer de l'argent, mais juste de savoir si son père était toujours dans la mémoire du club. Et il l'était, parce que Rachid Ahmed, en retour de sa lettre, il a reçu un courrier qui contenait un maillot et un chèque de 100 livres pour couvrir les frais médicaux. Chèque qui, selon lui, sera jamais encaissé, mais qui va garder comme un beau souvenir. Mohamed Salim décédera le 5 novembre 1980, mais en tout cas, il est resté dans les mémoires du club et il reflète parfaitement les mots de Willy Mallet, entraîneur du club à l'époque, qui disait que ce n'était pas la croyance ni la nationalité qui compte, mais l'homme en lui-même. Une devise ancrée qui est restée dans l'ADN du Celtic. C'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, c'est très très particulier d'enregistrer tout seul et de raconter une histoire comme ça tout seul. N'hésitez pas à me faire vos retours, je suis pas sûr d'avoir été bon sur l'intonation, sur le fait de bien raconter, je le découvrirai au montage, mais j'attends aussi vos retours objectifs comme d'habitude, positifs, négatifs, l'important c'est que ce soit constructif. Je vous remercie beaucoup d'avance et comme je l'ai déjà dit en intro, n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir cette histoire en vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, le lien sera en description et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast.